Alex,
et là, nous sommes devant le bar des Halles. En prévision de ce petit anniversaire de Pardon Maman, on prend un petit verre de vin en attendant que les invités arrivent.
Merci. On nous apporte chaleureusement un très joli cendrier blanc en faïence dont nous vous enverrons la photo parce qu'il gagne à être connu.
Peut-être que Juan, il en a un dans son bureau.
Il est parti.
Mince. Il fait chier à bosser, lui.
Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Je crois. On va rencontrer un petit peu les gens. On va foutre le zoom dans le sac, je sais pas ce que ça va donner.
Est-ce qu'on ferait pas un premier tour de pourquoi avec Thomas? Parce qu'il me semble que Thomas a préparé un petit pourquoi.
De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Bah, l'idée c'est que si t'as un truc à expliquer qui dure entre 10 et 30 secondes, t'as le micro et tu racontes ce que tu veux. De toute façon, après, c'est Juan qui va gérer avec le montage ou je ne sais quoi, donc.
Donc, le premier pourquoi. Pourquoi écrit-on sur des claviers AZERTY ou QWERTY?
Pourquoi la disposition, c'est ça?
Ouais.
Alors moi, je dirais instinctivement, la première réponse, c'était rapport machine à écrire.
Oui, mais alors pourquoi les machines à écrire ont été agencées de cette manière?
Pour éviter que les petits trucs qui vont taper les caractères ne se croisent suivant les mots que t'as à écrire.
C'est une légende urbaine.
Ah, en fait, c'est quoi?
Merci, Ilias, de tomber dans le panneau.
Yeah, bah tout le plaisir pour moi, c'est pas du tout fait exprès, je pensais vraiment que c'était ça.
Alors, il y a des études récentes qui sembleraient indiquer que la raison réelle de la chose, c'est que les premières machines à écrire ont été bêta-testées par des dactylographes,
ouais,
qui étaient en charge de retranscrire du télégraphe.
Okay.
Et donc, ils ont cherché la meilleure disposition pour être capable de retranscrire du morse.
Du morse ?
Et c'est pour ça, par exemple, qu'on trouve le I, qui servait de 1 à l'époque, à côté des touches 9 et 8, qui permet de taper les années très facilement. 1980, par exemple.
Ah, putain, ok.
1890, plutôt.
Ok, bah alors c'est intéressant, mais quand tu lis des études, il n'y a pas un mec qui a dit un jour pourquoi il avait fait ça?
Genre, alors non, le concepteur s'appelle Scholz,
ouais.
Et ce mec-là a jamais dit pourquoi il avait choisi cette disposition.
Ok.
Il n'y a aucune trace de ça.
C'est pas très pédagogue de sa part, mais pourquoi pas.
C'est peut-être à un moment où on se préoccupait pas tellement de ça.
Ouais, c'est vrai. Bah, il a fait de
la thune. Et après, le modèle s'est imposé. Et comme tout le monde utilisait du QWERTY, c'est devenu, ouais, de l'AZERTY et c'est resté jusqu'à aujourd'hui.
Puis une fois qu'on s'y fait, tout va bien.
Voilà.
Cool, bah écoute, c'est bon à savoir, je ne savais pas. On a appris quelque chose. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, depuis quand tu nous écoutes?
Alors, bah, je vous écoute depuis le premier épisode, parce, yeah, que j'ai la joie et le bonheur de te connaître en dehors de ce podcast.
Ah là, et d'avoir été un des premiers auditeurs, merci à toi.
Et le sujet que je viens d'aborder là, c'est un des sujets qu'on a traité sur une chaîne YouTube que je co-gère avec un ami, qui s'appelle Qu'est-ce que tu geeks, sur lequel on fait de la vulgarisation informatique et sur laquelle on a traité ce sujet en particulier.
Cool, donc si on vous cherche sur YouTube, on vous trouve. Et sur Twitter et sur Facebook.
C'est ça.
Ah, parfait. Bah, du coup, je vous conseille d'aller voir ce qu'il faut. C'est vachement bien. Et très pédagogue, bien imagé.
Merci, Ilias.
Bonjour, Skull.
Bonjour. Eh ben, moi, je vais vous parler des tétons des hommes. Alors, pourquoi les hommes ont des tétons? Eh ben, en fait, c'est parce que les embryons, quand ils se développent, ils se développent tous en tant que filles au départ. Ben, c'est tous des filles au début. Et puis, après, quand le chromosome Y apparaît vers le 8e mois, ben, ça stoppe le développement des caractères féminins, donc les seins. Mais du coup, les hommes conservent leurs tétons. Et il y a certains scientifiques qui disent que si jamais les hommes devaient allaiter, ce serait techniquement possible. Et c'est pour ça qu'il y a certains hommes qui... Voilà.
Très bien.
Voilà, voilà.
Mais c'est formidable. Merci beaucoup.
Jean-Baptiste, comment vas-tu?
Très bien, je vous remercie. Très bonne soirée. Début sympa.
Ah, juste sympa?
Juste sympa, fantastique.
Ah, voilà, c'est
bien. Alors, je vais voler la vedette. Et toi, Ilias, comment vas-tu?
Ah, merci. Putain, enfin. Voilà, quelqu'un qui y pense. Parce que voilà, Camille plus là, plus personne ne demande. Bah écoute, ça va très bien. Écoute, tu nous écoutes depuis quand? Enfin, depuis combien de temps?
Depuis plusieurs mois, j'ai dû commencer. Vous deviez avoir publié le 4e ou 5e épisode. Mais je les ai pris dans l'ordre. Et ça m'a plu tout de suite.
Ah, cool. Et t'écoutes quoi d'autre?
J'écoute d'autres podcasts. Je suis assez fan de Passion Médiéviste. Sinon, Les Couilles sur la Table, qui est un podcast assez sympathique sur la masculinité. Et j'en oublie sûrement, mais voilà. Assez fan de podcasts. Dans la voiture, c'est le meilleur moment de ma journée.
Comment tu t'appelles ?
François-Xavier.
François-Xavier, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, je pensais vous parler du chameau. Et pourquoi du chameau ? Parce qu'en fait, ben, j'ai appris récemment que le chameau, eh ben, à l'origine, c'est une créature, ben, on sait normalement que ça vit dans un endroit où il fait chaud. C'est le désert, le chameau. Et si je te disais plutôt qu'en fait, le chameau, ça vient plutôt d'un environnement, t'as des icebergs, t'as des glaciers, t'as beaucoup de neige où il fait froid. En fait, à l'origine, le chameau, il y a 4 millions d'années, ça vient d'Amérique du Nord. Ça a émigré en Amérique du Sud il y a 3 millions d'années et dans le reste de l'Europe et dans le reste du monde, excuse-moi. C'est pour ça que par exemple on a aujourd'hui tout ce qui est les lamas, ce sont les descendants des chameaux. Et en fait, pourquoi est-ce que le chameau c'est une créature d'environnement arctique? Parce que quand tu regardes, tu te dis, c'est bien tous les poils qu'il recouvre, c'est pas mal, ça le protège bien de la chaleur, ça l'isole. Mais l'inverse est également vrai pour le froid. Les pattes aussi, ça marche. Ce qui marche très bien pour se déplacer sur le sable, ça marche très bien aussi pour se déplacer sur la neige. Et en plus, c'est une créature qui. Toute la graisse du corps est concentrée en une seule zone. Ça fait qu'en fait, la chaleur se dissipe très bien. Comme elle est très bien isolée, ça marche très bien aussi pour l'environnement froid. Donc, une créature comme ça qui peut survivre très longtemps sans nourriture dans un environnement chaud, bah dans un environnement froid où il n'y a pas de nourriture non plus, bah ça colle parfaitement aussi.
D'accord, mais aujourd'hui, il n'y en a plus des chameaux en Amérique du Nord, enfin dans les pays froids, si ?
Bah non, en fait, il n'y en a plus. Ils sont tous morts en Amérique du Nord, semble-t-il. Apparemment, il y avait plusieurs variétés de chameaux à l'origine qui sont tous morts, sauf ceux qui sont partis dans les autres régions, qui ont soit évolué en lama, comme on les connaît en Amérique du Sud, soit qui sont la forme qu'on connaît aujourd'hui, principalement dans les zones désertiques.
D'accord, ok.
Mais voilà. Écoute,
merci beaucoup, François-Xavier.
Bah, de rien, c'est un plaisir.
Donc moi, c'est Thomas, enchanté.
Enchanté.
Ah, donc moi, je vous écoute depuis la saison 2, on va dire plus. Et je vous ai écouté depuis les escape rooms. En fait, le sujet sur les escape rooms, ça m'a permis un petit peu de rediffuser un petit peu ça et même de le diffuser auprès de mes potes pour en parler un petit peu comme ça.
Trop bien. C'est le sujet avec Clémence, qu'on salue d'ailleurs. C'était adorable, qui nous a fait un super sujet. C'était trop cool. Plutôt. Bah, n'hésite pas à apporter des précisions, comme je disais.
Bien sûr.
En fait, un de nos derniers kiffs, en tout cas, un de mes derniers kiffs perso, c'est de voir que les gens critiquent ce qu'on fait.
Ouais.
C'est cool parce qu'en fait, ils m'ont apporté assez d'intérêt pour critiquer le truc. Donc, c'est trop cool. Cool. Et alors, tu nous as connus comment ? Par curiosité.
Alors, moi, je vous ai connu justement en cherchant des podcasts divers et variés. J'ai commencé à prendre à gauche à droite. Et puis, à un moment, je vous ai vu dans les tendances, je sais plus trop quoi. Et c'était parti.
Alors, c'est quoi ton prénom ?
Sandy.
Ah, et de quoi tu vas nous parler, ça ?
Je vais vous parler des avions.
C'est vrai ? Alors, je t'écoute.
Est-ce que vous savez pourquoi, quand les avions décollent ou atterrissent pendant la nuit, la lumière s'éteint dans l'intérieur de l'habitacle ?
Moi, j'en ai aucune idée.
Je sais pas. Alors, c'est pas pour être tranquille et dormir, hein, comme tout le monde peut le penser. C'est qu'en fait, s'il y a un atterrissage d'urgence, c'est pour que les yeux des passagers soient déjà habitués à la pénombre extérieure en cas d'évacuation, en fait, et puissent voir ce qui se passe dehors. Voilà.
Et c'est
maintenant,
formidable.
Tu sauras pourquoi ils éteignent la lumière dans les avions.
Et toi ?
On a notre première offrande.
Ah, des gâteaux ?
Comment ?
Des gâteaux ?
Oui, des moelleux chocolat caramel, fait par Alice, la demoiselle qui se cache derrière ce poteau.
Merci Alice. Voilà. Bon, Alice ne m'entend pas, mais c'est pas grave. Merci Alice. Ah bah tiens, Alice, tant que j'y suis, tiens, je te passe le micro.
Oui, on m'a dit qu'on pouvait amener des offrandes, alors j'ai amené des fondants choco caramel.
Ah, t'es la meilleure. T'es absolument la meilleure. Et j'ai un peu honte de te poser la question, vu que t'as ramené des gâteaux quand même. Est-ce que t'as préparé un petit pourquoi ?
Alors, c'est pas un pourquoi, c'est plus une question comment.
Ah, très bien, ça marche aussi.
Une question comment, et je pense que c'est Ichouchou qui aura la joie d'y répondre.
Ah, donc tu poses la question, mais tu n'as pas la réponse.
Non, j'ai pas la réponse. C'est une spéciale animalière.
Très bien. Ah.
Comment étaient traités les zèbres du zoo de Johannesburg pendant l'apartheid ?
Ok, mais en fait, t'as la question mais pas la réponse.
Non, j'ai pas la réponse. Ça et fait des mois que je la cherche, cette réponse.
Écoute, on creusera.
On creusera.
On donnera la réponse. Bah, une mission pour les chouchous, très bien. Ça coule douce en ce moment.
Je suis Cyril, un ami de Juan.
Ou simple
auditeur
fan
aussi,
de Juan.
Depuis quasiment le début, je pense. Depuis qu'il m'en a parlé. Donc il a bien fait sa pub.
Ah, il est gentil, il est adorable.
Et sinon, je suis graphiste spécialisé dans l'architecture.
Ok.
Et donc j'avais envie de parler d'un merveilleux sujet qui est la théière de Noël.
Putain, ça me dit quelque chose.
Qui est aussi appelée la théière de l'Utah.
Je pense que tu vas devoir m'en dire plus.
En fait, c'est une théière qui apparaît dans ce qu'on appelle les primitives de base dans la majorité des logiciels de 3D.
Ouais.
En général, tu vas voir le cube, la sphère, le cylindre, ouais, différents trucs. Et
la théière.
En général, la théière intégrée dans la majorité des anciens logiciels. Maintenant, ça peut être remplacé dans d'autres logiciels par d'autres trucs. En fait, c'est un objet qui est bien parce qu'il est à la fois... Il y a des parties convexes, des parties concaves. Il se projette une ombre sur lui-même et ça permet de créer facilement des matériaux et de voir leur réaction par rapport à la lumière.
Okay, donc c'est un bon moyen d'avoir, on va dire, un objet type pour montrer ce que peut donner ce que tu es en train de faire.
Voilà. Et en fait, cet objet a une histoire, c'est que Martin Newell, qui était un chercheur de l'université de l'Utah, a été un des premiers à travailler sur la 3D sur ordinateur, et il était en train de faire ses recherches et il est rentré chez lui à un moment en disant qu'il avait besoin d'un objet à modéliser. Ce à quoi sa femme lui a répondu: t'as qu'à modéliser le service AT. Donc
Alors, est-ce que tu penses que c'était très ironique, du genre me fais pas chier?
Alors ça, c'est
bien,
c'est
bien, bien intentionné de sa part.
C'est un mystère, c'est sûrement oui, peut-être qu'elle en a strictement rien à foutre et qu'elle avait envie juste qu'il le lâche avec ses histoires à la con.
C'est pas tranquille, va travailler là, tu me saoules.
Et donc il a modélisé cette théière qui depuis est devenue une référence et un des objets historiques de la 3D sur ordinateur. Ce qui fait non seulement que la théière originale, le service AT, était racheté par un musée.
Oh putain.
Qui a fait une installation où on a à la fois un ordinateur sur lequel on peut faire des modifications sur la théière, comme changer sa couleur et tout, et en même temps sur le service AT d'origine,
projeter ça.
Des couleurs sont projetées, et aussi le fait que cette théière a été énormément utilisée déjà par simplicité pour avoir des objets complexes facilement, et aussi par référence après dans pas mal dans tout ce qui est télévision, cinéma et jeux vidéo. Par exemple, on peut l'apercevoir dans il y a un épisode des Simpsons, un ancien des épisodes d'Halloween où Homer est absorbé dans un univers en 3D.
Ouais.
Et dans ce cas-là, on voit dans le fond à plusieurs endroits la théière.
Oui, un peu en mode Tron, non ?
Elle est sur un des tableaux qu'on peut acheter dans les Sims. On le voit dans plusieurs Pixar aussi.
Ah, je sais pas.
Par exemple, dans le premier Toy Story où Buzz l'éclair essaye de se servir un thé quand il joue avec la sœur du héros avec cette fameuse théière. Et on le retrouve dans de nombreux films et dessins animés et jeux vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose, ça fait partie des références à connaître pour pouvoir les chercher et retrouver la référence dans la culture populaire.
Bah, merci beaucoup. Cool, bah, profite bien de la soirée.
Est-ce que tu nous as préparé un pourquoi ?
Oui, j'ai un petit pourquoi ou comment. C'est pourquoi la pastèque est-elle le légume officiel de l'État d'Oklahoma ? Alors l'Oklahoma, comme beaucoup d'États américains, cultive la pastèque, ça c'est pas un problème, notamment dans un coin où se trouve Don Barrington. Don Barrington, en 1994, il a gagné un concours de crachat de pépins de pastèque. Ça existe vraiment, le record est à 23 mètres, c'est à peu près un terrain de tennis. Bon délire, non ? Et du coup, quelques années après, en 2007, Don Barrington est devenu sénateur et il a eu envie que la pastèque devienne le fruit officiel de l'État d'Oklahoma. Manque de peau, il y avait déjà un fruit officiel de l'État d'Oklahoma, c'est la fraise. Pourquoi ? C'est une autre histoire. Il s'est dit, ok, il y a déjà un fruit officiel, et bien la pastèque sera le légume officiel de l'État d'Oklahoma. Et alors les gens lui disent, mais attends, la pastèque n'est pas un légume, enfin. Et il dit, ah ouais ? Eh ben la pastèque, les gars, c'est un cucurbitacé. C'est la même famille que les concombres, les courges et les courgettes. Du coup, comme tout ça, c'est des légumes, eh ben la pastèque, c'est un légume. Donc il fait son monde comme ça. Et en fait, tout est bien qui finit bien parce que tout le monde s'en bat les steaks. Du coup, les sénateurs ont voté à 79 contre 19. Ok,
la pastèque est le légume officiel de l'État d'Oklahoma.
Et est-ce que t'as un petit mot du coup à nous dire, un petit kikou
Ben bravo, pardon maman, et merci de votre écoute aux auditeurs, et je le sais parce que j'ai posé une question et vous avez répondu très vite dans l'émission. Donc merci pour votre travail de vulgarisation qui est toujours très réussi.
Ben franchement merci beaucoup à toi de nous écouter et merci d'avoir pris le temps de répondre à cette petite question.
Avec grand plaisir.
Salut, alors est-ce que tu peux te présenter?
Oui, alors moi c'est Mathieu. Et donc je suis un assidu écouteur.
Auditeur.
Auditeur. Ouais.
Après, non, bah tu fais comme tu veux.
Bah j'écoute déjà. C'est déjà pas mal.
C'est déjà vachement mal. Et en plus, t'es venu donc c'est cool.
C'est vrai.
Alors tu m'as dit que tu avais préparé un petit pourquoi.
Alors, ouais, alors moi c'est pas un pourquoi, j'ai regardé l'étymologie du mot tartiflette.
Alors dis-moi tout.
Alors tartiflette, en fait, ça vient du mot tartifle qui veut dire pomme de terre en savoyard.
Ok.
Et à la base, je me suis dit, tiens, mais est-ce que ça vient vraiment de Savoie, la tartiflette? Et pas vraiment, en fait, c'est une évolution de la recette savoyarde, la pela, qui est un peu pareil, sauf qui était, qui veut dire pelle, en fait, en savoyard, et qui était, c'était une espèce de tartiflette sans vin blanc dans une poêle avec un long manche, d'où le nom de la pela.
Ah.
Et ensuite, tartiflette, c'est le mot moderne, à bon entendeur. Ça sert pas à grand chose, mais ça donne faim.
Ça servira à, on va dire, agrémenter le dîner attendant que la tartiflette soit prête.
Très bien.
Bonjour.
Bonjour.
C'est comment ton prénom?
Camille.
Camille, ben enchanté.
Je sais, c'est un très beau prénom.
Oh, c'est magnifique, j'adore. Je suis séduit. Et de quoi tu vas nous parler?
De la relation entre la taille de la navette spatiale américaine et des culs de chevaux. Parce que la taille de la navette spatiale américaine a été définie à cause des culs de chevaux. Alors le lien exact vient du fait que la navette spatiale américaine a des réservoirs sur les côtés pour aller plus loin, pour avoir plus d'énergie. Ces réservoirs vont sur des rails pour être expédiés. Donc il faut qu'ils passent sur les rails. Donc il y a une taille limite parce que ces rails passent sous des tunnels. Ces rails sont écartés pour pouvoir tenir une locomotive, tout simplement, c'est tout con. Cette locomotive a été construite avec les mêmes outils que pour construire les anciens carrosses, chariots, etc. Ces chariots sont tenus par deux chevaux. Les deux chevaux doivent pouvoir galoper l'un à côté de l'autre. Et donc, ils doivent ne pas se toucher. Et donc, ils ont été faits de manière à être suffisamment large pour mettre deux chevaux. Donc, à partir de là, on a la partie la plus large du cheval, qui est le cul de cheval, qui définit la largeur du chariot, puis la largeur des rails, puis la largeur des locomotives, puis la largeur des réservoirs de fusées, et donc la largeur des navettes spatiales.
Ah bah c'est formidable, Camille.
Extraordinaire.
Génial, j'adore. Merci.
Ah, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bah écoute, plutôt pas mal. Il y a beaucoup de monde, c'est cool.
Qu'est-ce que tu peux te présenter?
Oui, je suis Alexandre. Vous avez déjà pu me voir dans un ou deux épisodes. J'ai fait la genèse en 7 jours, expliqué avec des maths et avec de la physique surtout. Et puis les femmes qui ont reçu un prix Nobel de sciences. Alors aujourd'hui, l'idée c'était de parler de comment est-ce qu'on peut expliquer un phénomène qu'on a tous vu et qui nous fait un petit peu tous rêver, les aurores polaires. Alors c'est un phénomène un peu incroyable qu'on peut voir au nord, c'est ce qu'on appelle les aurores boréales, et puis au sud, c'est ce qu'on appelle les aurores australes. Et souvent on voit que c'est un truc qu'on voit dans le ciel, aux nuances rouges ou vertes, qui arrivent périodiquement et qui paraît magique. Donc la question c'est de dire d'où ça vient, pourquoi est-ce que c'est de différentes couleurs aussi. Tout d'abord, c'est à cause du soleil, plus précisément des éruptions solaires, c'est-à-dire de l'émission de particules fortement énergétiques dans toutes les directions, donc certaines qui arrivent en direction de la Terre. Celles-ci, elles vont être déviées par le champ magnétique terrestre dans des zones annulaires sous forme d'anneaux au niveau des pôles. C'est pour ça qu'on les observe principalement vers le pôle nord ou vers le pôle sud, et pas quand t'es au sud de la France ou en zone équatoriale. C'est à cause du champ magnétique terrestre. Alors pour appréhender la suite, il faut comprendre un petit peu comment l'atmosphère elle est composée et comment fonctionne l'énergie à l'échelle microscopique, à l'échelle des atomes, des molécules, tout ça. L'atmosphère, c'est un gaz. C'est un ensemble de molécules qui sont très éloignées les unes des autres. Contrairement à dans un liquide où elles sont plus proches, et un solide, elles sont encore plus proches et très très liées. C'est pour ça qu'un solide, il a une forme et pas un gaz. Alors si notre atmosphère terrestre est principalement composée d'azote et d'oxygène, à différentes compositions, ben, la composition elle va pas être la même quand tu es au niveau du sol ou quand tu es dans l'air en haut. Et les particules énergétiques qui arrivent à cause des éruptions solaires, en fait, elles vont donner de l'énergie à ces molécules. Sauf que les molécules, c'est un petit peu comme nous. Elles ont envie de rester assis, chill, pépère devant Netflix. Et du coup, elles vont avoir qu'une seule envie, c'est de relâcher cette énergie pour revenir à un niveau d'énergie le plus bas possible. Sauf que, à cette échelle, l'énergie, c'est pas quelque chose de continu. C'est pas comme un escalator, c'est plutôt comme un escalier. Et du coup, tu peux monter et descendre des marches, mais tu peux pas monter une demi-marche ou un quart de marche. C'est vraiment tu vas pouvoir monter une marche, deux marches, redescendre une marche, deux marches, mais tu peux pas faire entre les deux. Et du coup, quand elles vont gagner de l'énergie et en reperdre, et donc la taille des marches, ça va te donner une certaine quantité d'énergie. Et cette taille de marche, elle est dépendante de la molécule. Genre, t'as pas la même taille de marche pour l'oxygène, pour l'azote, pour le dioxyde de carbone, pour l'eau, etc. Du coup, comme il y a une certaine taille de marche, bah, ça va être spécifique du coup, à l'altitude à laquelle on est. Et donc, en fonction de si on est très très haut dans l'atmosphère ou un petit peu moins haut, on va avoir des couleurs émises qui vont être plutôt du vert ou plutôt du rouge. Parce que pour pouvoir libérer de l'énergie, la seule solution pour ces molécules, ça va être d'émettre un rayonnement. Et ce rayonnement, en l'occurrence, il est dans le visible, soit vert, soit rouge. C'est exactement le même phénomène que lorsque t'as un éclair où t'as aussi beaucoup d'énergie, sauf que comme t'es beaucoup plus bas, bah t'es plus dans le bleu ou dans le blanc, donc des rayons un peu plus énergiques. Voilà, voilà.
Salut.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Bah écoute, très bien, attends, je récupère ma bière. Donc du coup, est-ce que tu peux me dire qui t'es, comment tu nous as connus?
Ouais, moi je m'appelle Adrian, et j'ai débarqué à Paris il y a à peu près un an. Je suis développeur web et j'ai découvert Pardon Maman un peu juste après que je suis arrivé. Et du coup, c'était hyper cool. Je suis un peu évolué en même temps que vous et je me suis pas mal attaché au podcast.
Oh, c'est adorable.
Du coup, je le suis avec attention.
Et est-ce que t'as préparé un petit pourquoi?
Alors oui.
Ah, top. Très bien.
Ce à quoi j'ai pensé, c'est pourquoi l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide.
Moi, je parlerai de structure moléculaire, mais je suis pas sûr.
Ouais. Alors, en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a longtemps. Et surtout, l'hiver, quand il fait froid, quand on balance une bassine ou un verre d'eau chaude dehors, ça se transforme direct en neige. Alors que de l'eau froide, elle va rester liquide et elle va s'éclater lâchement. Mm-hmm. Et en fait, en cherchant en ligne, j'étais assez déçu des réponses parce que les scientifiques ne sont pas du tout d'accord sur une théorie et que ça n'a pas été prouvé.
Ah putain.
En fait, y a un gars, Mbembe, qui a essayé de prouver quelque chose. Et alors, il est sorti avec plusieurs théories qui n'ont jamais pu être vérifiées. Voilà, la première, c'est qu'à cause de l'évaporation de l'eau chaude, le volume diminue et du coup, ça gèle plus vite. Et c'est okay. Pas la plus retenue. La plus plausible, c'est qu'à cause du fait que l'eau chaude subit plus de convection, donc comme elle est chaude, elle a plus de mouvement que l'eau froide,
ouais.
Il y a plus de contact avec l'extérieur. Et que du coup, elle va geler à une vitesse plus haute.
C'est-à-dire que les molécules vont bouger plus vite, donc elles vont être au contact de l'air plus vite.
Ce serait ça, ouais.
Ok, intéressant. Ouais.
Mais c'est vrai que pas de réponse officielle. Essayez ça, c'est vachement marrant, s'il fait froid, de balancer le truc et de devoir se transformer en neige. Mais voilà.
Et t'as déjà testé?
Ouais, j'ai testé, ouais.
Bonjour.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va très très bien.
Est-ce que tu peux te présenter?
Je suis Karen.
Karen, est-ce que tu fais un petit podcast par hasard?
Oui, je fais un podcast qui s'appelle Dentorade et un autre qui s'appelle Édition Illimitée sur les livres.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler des petites erreurs typographiques. Alors, vous savez sûrement ce que c'est qu'une coquille. Vous pensez savoir ce que c'est? Alors, on pense qu'une coquille, c'est genre une petite faute dans un texte. Plus précisément, une coquille, c'est le remplacement d'une lettre par une autre. Et il y a d'autres termes dans le même genre, dans le jargon typographique. Il y a aussi le mastic, qui est l'inversion de la position d'une lettre, d'un groupe de lettres ou d'un paragraphe. Donc genre si t'inverses deux lettres dans un mot. Et l'autre mot, c'est un bourdon, l'oubli d'une lettre. Et alors le truc, c'est qu'il y a une légende qui court autour de la coquille, comme quoi le nom viendrait de un texte où, au lieu d'écrire coquille, on aurait oublié le cul. Et du coup, cette faute-là, la coquille devenue couille, et ben en fait, c'est pas une coquille, c'est un mastic. Et la petite histoire, c'est que la vraie origine de ces termes, ça viendrait de... Alors, le bourdon ressemblerait au bâton des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc d'où le nom de bourdon. Et la coquille, c'est pareil, c'est lié à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc il y a une jolie histoire typographique autour de tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous apprendre ce soir.
Écoute, c'est super. Merci à toi. Bonjour à toi.
Bonjour.
Qui es-tu?
Je m'appelle Aude. Voilà, donc une fidèle auditrice, voilà. Je pense que je vais parler de mon métier. Donc, je suis tapissier. Donc, je suis une fille, mais je tiens particulièrement à ce qu'on garde le masculin du métier. Et je vais l'expliquer pourquoi, voilà. Donc, c'est un métier très ancien. Et donc, le métier de tapissier, donc, c'est ce qui est refaire les sièges. Donc, ça va être siège, mais il y a aussi bon, tout le travail de couture, de rideau, tout ça. Et donc, à la base, le métier de tapissier, donc, c'est un métier masculin. Donc, c'était l'homme qui refaisait tout ce qui était siège. Et la femme, donc la tapissière, qui faisait tout le travail de couture, donc le travail de coussin, de rideau, tout ça. Donc moi, j'ai appris vraiment le métier de tapissier, donc c'est-à-dire refaire les sièges. Donc je suis, on va dire, plutôt attachée à cette appellation. Et bizarrement, donc mon mari, qui est aussi tapissier, on travaille donc ensemble et on va dire que tous les travaux de couture, réellement, c'est lui qui va le faire. Donc, exactement. Bon, on fait... voilà. Donc, généralement, quand on me regarde et qu'on... pour les travaux de couture, et je fais « Non, non, c'est lui qui le fait. » Voilà. Voilà, donc c'est assez drôle. Enfin, moi, je prends malin plaisir pour reprendre... Non, non, je suis tapissier, vraiment. Lui aussi, il est tapissier parce que c'est notre métier de base, mais on va dire que vraiment, tous les travaux de couture, moi, ça m'emmerde, mais vraiment, ça... Il faut beaucoup de précision, de minutie, tout ça, et moi, ça m'emmerde. Et lui, il a la patience de faire ça. Et donc voilà, c'est lui qui... Voilà, exactement. Voilà, mon pourquoi de... Voilà. Alors, oh mince, comment je vous écoute ? Mince, je sais même pas. Hein. Alors, attends. Bah oui, ça fait un moment. Je vous ai pas écouté depuis tout le début. Est-ce que... Oh merde. Oh, bah, alors là, c'est la colle. Non, j'ai dû voir. Est-ce que j'avais écouté Pim Pam Poum en premier ? Qui parlait... Non, alors je sais, avec des tweets ou des trucs comme ça. Je sais pas. Ouais, non, mais alors, je sais pas qui j'ai écouté en premier des deux.
Peut-être parce qu'ils sont passés.
Oui, ça, oui, ouais, voilà, ça, je me souviens. Mais je sais plus, alors, parce qu'après, je tweet beaucoup, enfin, je suis vachement sur la tweetosphère. Et donc, après, je sais pas comment. Je pense qu'après, non, ou ça doit être d'autres potes qui tweetaient comme quoi ils vous écoutaient. Je me suis dit, ça a l'air vachement cool. Et je pense qu'en fait, en gros, avec Pim Pam Poum, je joue en même temps, enfin plus ou moins en même temps, et voilà. Et donc, depuis peu, depuis le temps que je dis à mon mari, vas-y, écoute, je le gonfle avec ça. Donc, ça y est, depuis peu, il s'est abonné à Pim Pam Poum et pardon, maman. Et alors, un truc, parce que j'adore votre générique, hein. Et je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était Camille qui disait d'aller se faire enculer.
Ah non.
Voilà, et donc, bref, il a, voilà, et il l'a écouté et il revient me voir, il me fait, je sais d'où ça vient. Et donc j'aimerais, il a trouvé, alors est-ce que c'est ça, donc je voudrais avoir, pour lui dire ce soir si c'est vraiment ça, est-ce que ça vient de nos jours heureux
Je pense que oui.
Ouais. D'accord, bon.
Oui, ça vient d'un film.
Voilà, donc bon, c'est ça. C'est vrai que ce film, nous, on avait vraiment beaucoup rigolé à ce film-là. Et cette réplique, et pourtant, bah, voilà, mais t'es pas venu en tête. Bah, et là, voilà, il écoute la première fois, il y a deux jours, il me fait, ça y est, je sais d'où ça vient. Je fais, ah ouais, d'accord, super. Donc voilà. Non, ouais, génial. Et vraiment, j'ai accroché direct. Ah non, c'est cool. Et puis, au départ, vous faisiez une heure d'émission, ce qui était parfait pour moi parce que je vous écoutais à la piscine, parce que ça me faisait mon heure de longueur. Voilà, donc maintenant, j'ai dû... Ben, vous faites plus partie... Non. J'ai dû changer de podcast. Ce n'est plus vous, mes favoris pour... voilà, donc c'est pour la piscine. Donc maintenant j'en ai d'autres. C'est 2 fois 30 minutes. Donc voilà. Voilà.
On est pour que d'autres personnes rencontrent d'autres personnes.
Voilà, voilà.
Parce que c'est comme ça que d'autres gens nous connaissent aussi.
Ouais.
Et c'est super cool.
Ouais. Et j'écoute beaucoup de podcasts et donc vraiment vous, ben là, ça, j'avais. Donc depuis un mois, j'en écoutais pas pour des raisons. Voilà, enfin. Et au retour, et ben, c'est vous les premiers que j'avais, j'en avais quoi ? 3 plus le dernier là, 4 de retard, donc au taquet.
15 jours.
Voilà, ça y est, c'est bon.
Écoute, je te remercie.
Et ben merci à toi, et puis ben, à la prochaine.
Ouais,
et merci pour les goodies.
C'est
trop bien, c'est génial.
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout ?
Ben, dites-tu nos conneries.
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer ?
Ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.